Vous l'ai-je dit, Avignon, c'est une traversée de la ville, continuellement d'un lieu à l'autre, d'un cloître à un théâtre, d'un jardin à une cour de lycée, traversée des univers, des genres, des esthétiques, du répertoire, des émotions. Avignon, une traversée des continents géographiques et imaginaires, un beau voyage.
Pascal Paradou.
Et nous voilà partis en voyage dans les histoires, tous les jours en direct du Festival d'Avignon. Nous nous faisons l'écho des spectacles du in et du off. Et aujourd'hui, c'est un voyage vers une planète volante dans un rêve fait au XVIIIe siècle que je vous propose de partir par l'entremise de Madeleine Louarne, qui signe la mise en scène de Gulliver, le dernier voyage, d'après le roman anglais de Jonathan Swift. Bonjour Madeleine Louarne.
Bonjour.
Pour vous, c'est un voyage qui a commencé il y a très très longtemps, parce que vous avez déjà travaillé à plusieurs reprises sur ce texte de Swift.
Alors, en fait, ce texte de Swift comprend quatre voyages. Et effectivement, il y a peut-être une trentaine d'années, on a mis en jeu aussi le dernier voyage qui raconte un peu comment Gulliver atterrit dans une île qui est dominée par des chevaux et où les hommes sont réduits à des sortes d'animaux bien braillards et terribles. Et on retrouve dans ce troisième voyage la corrosivité de Swift qui a une détestation assez énorme sur la misanthropie, j'allais dire, de la société. Et comme il dit, il peut aimer les hommes, un Pierre ou un Paul, mais l'organisation sociale des hommes et la façon dont ils se comportent, il ne cesse de la critiquer, en fait. Et à travers, justement, des fictions où il montre en dérision un certain nombre de nos défauts.
Alors, racontons un peu Gulliver, s'il vous plaît, parce que tout le monde connaît ou presque l'histoire des géants ou des Lilliputiens, mais est-ce que tout le monde a lu les voyages de Gulliver ? C'est pas sûr.
En plus, on l'a traité souvent pour une littérature pour enfants, a priori, alors que c'était tout à fait une littérature pour adultes quand Swift l'a écrit. Ce troisième voyage, en fait, est une sorte. C'est celui sans doute le moins connu parce qu'il est. C'est un archipel, en fait, c'est pas un seul pays. Donc on visite différents endroits et qui, au fond, traversent la même question qui est celle de l'inquiétude de la faim. La fin éphienne, la fin du monde, mais aussi la fin des hommes. Et du coup, on fait appel des fois à l'histoire et aux fantômes pour essayer de se rappeler comment on pourrait changer les choses qui ne vont pas pour éviter le pire. Et on termine dans une île où tous les hommes sont immortels. Mais malheureusement, ils ont oublié d'être jeunes. Donc ils sont terriblement vieux, dans un état de décrépitude absolue et une immortalité la plus infernale qu'on puisse imaginer.
C'est un peu le résumé que vous venez de faire de ce dernier voyage que vous proposez ici au Festival d'Avignon. Et en effet, ce n'est pas ni tout à fait un spectacle et en tout cas pas un roman pour les enfants. Je crois que Swift disait vouloir tourmenter le monde plutôt que le divertir. Je trouve que c'est une belle formule.
Oui, en fait, il essaye, je pense, de nous piquer. De nous piquer pour essayer de nous bouger sur nos propres penchants un peu délétères, d'essayer toujours de lâcher en fait là où il faudrait toujours continuer à travailler. Mais en fait, ça reste pour nous quand même un spectacle pour jeune public, parce qu'on l'a un peu traité, parce que Gulliver incite à ça aujourd'hui, c'est son sort, il a traversé la littérature aussi à travers la littérature enfantine, et donc c'est un spectacle tout public. Juste, je voulais signaler aussi que c'est une comise en scène avec Jean-François Auguste, donc on est deux depuis déjà de nombreuses années à travailler ensemble, et que voilà, on a travaillé à reconstruire cette fiction qui est un peu une science-fiction en fait, quasiment pour essayer d'élaborer un monde peut-être meilleur, mais à travers Swift, c'est forcément un monde un peu ridiculisé.
En tout cas, c'est un spectacle où il y a de l'émerveillement et les spectateurs hier n'avaient finalement à la bouche que les mots de émotion, tendresse, enfance. Donc tout le côté satirique de la pièce apparaît, mais c'est pas ce que l'on retient forcément.
Oui, parce que je pense que les acteurs qui sont des hommes et des femmes handicapés, intellectuels, mentaux, comme on dit, et qui vivent dans un ESAT, sont à Morlaix, sont
en
évidemment,
Bretagne,
ils sont professionnels depuis plusieurs années, mais voilà, c'est une expérience relativement rare et produisent forcément un déplacement par rapport aux acteurs standard, enfin plus communs qu'on a l'habitude de voir, et leur corps, leur façon d'être, en fait, sont parfaits pour incarner des êtres qui sont un peu fantastiques ou en tout cas qui, dans la littérature, ont une extravagance particulière. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Swift, parce qu'ils étaient parfaits pour interpréter ce genre de personnage.
Madeleine Loirne, des Voyages de Gliver, vous avez donc choisi de nous embarquer sur l'île de Laputa.
Oui.
Mais le temps d'y aller, il faut un petit peu de temps. Le Barbershop Quartet va donc jouer dans deux vives voix. C'est une formation qui joue un spectacle intitulé Chapitre. C'est dans le off au théâtre de l'Essaillon.
Plus jolie, tes yeux, ton corps, ta voix, tes formes rebondies nous plaisent infiniment et nous font chavirer. C'est un sacré vénère, Joseph, ton fiancé. Oh Marie, maintenant tu exagères, arrête de grossir, tu ressembles à une montgolfière et cesse de sourire avec cet air béat qui donne l'impression que tu entends des voix.
Marie,
oui.
Vous avez couché avec un garçon.
Ah non, monsieur, moi j'ai jamais
Marie,
couché avec...
Marie, vous avez couché avec un garçon.
Ah, ah non, je vous jure.
Oh, je jure. Marie, c'est... ne jurez pas.
Oh Marie, reviens à la maison. On t'a tous pardonné et ton petit garçon Joseph le cocu est prêt à l'accepter, à condition qu'il ne se fasse pas remarquer.
S'il ne faut pas faire un signe de croix, le Barber Shop Quartet au Festival d'Avignon. Et nous sommes aujourd'hui en direct avec Madeleine Loirne qui présente avec les comédiens de la troupe Catalyse un spectacle intitulé Gulliver, le dernier voyage. Alors on est d'abord plongé dans le noir. Une voix off évoque un naufrage. Et sur scène, il y a des présences un peu fantastiques qui se dessinent et qui m'ont fait penser au voyage dans la lune de Méliès. C'est le temps nécessaire pour passer d'un univers à l'autre, de ce soleil avignonnais très très fort, à le conte que vous nous racontez sur scène, Madeleine Loirne.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'idée d'avoir cette petite plongée dans le temps qui nous permet de rentrer dans une autre fiction. Et effectivement, c'est très juste. Je n'avais pas pensé à Méliès, mais on n'avait
pas pensé.
Pas vraiment. On avait pensé au voyage sur la Lune de Cyrano de Bergerac, puisqu'il est exactement de la même époque que Swift. Mais on n'avait pas véritablement imaginé. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Comme quoi, les imaginaires, ils travaillent inconsciemment, certainement.
Et puis, il y a donc ce spectacle-là et une voix enfantine dans le noir qui se fait entendre.
Oh, merci! Oh, vous m'avez sauvé du naufrage! Je m'appelle Gulliver et j'ai faim. J'ai un petit creux. Vous pouvez pas me donner un petit quelque chose, s'il vous plaît?
Manon Carpentier dans Gulliver, le dernier voyage. Alors, c'est une voix d'enfant, mais ce n'est pas du tout une enfant, mais c'est une comédienne porteuse de trisomie 21 avec qui vous avez l'habitude de travailler.
Absolument, elle est avec nous depuis le précédent spectacle qu'on a joué ici d'ailleurs à Avignon, le Grand Théâtre d'Oklahoma d'après Kafka, d'après l'Amérique de Kafka. Et c'est effectivement une jeune femme qui est toute jeune, hein, et qui travaille avec nous, et qui était... Je crois qu'on a choisi Gulliver beaucoup parce que c'était elle, en fait. Elle avait la fraîcheur, le désir d'aventure, de découvrir, et cet enthousiasme qu'a Gulliver, forcément, pour se lancer dans ces voyages incroyables. Et voilà. Et c'était un petit clin d'œil à Swift, qui déteste les femmes. Donc, on était bien contents de lui rendre cette...
Et de transformer son Gulliver, qui est un homme, en femme.
En femme aventurière, voilà, tout à fait.
Mais c'est une île où tout est renversé, tout est inversé, de toute façon. Donc, c'est assez logique.
C'est une île flottante. On retrouve d'ailleurs l'inspiration des îles qui volent, des îles volantes. On en retrouve les dessins animés de Miyazaki, bien sûr. À chaque fois, j'ai peur de me tromper de japonais. Et du coup, c'est vraiment... On voit d'ailleurs tout Swift a irrigué toute la littérature et l'imaginaire de plein de continents dans toutes ces trouvailles et tout ça qu'on dépiote au fur et à mesure des récits. Et l'île volante est vraiment... Alors là, on est sur une île volante. Comment on va passer d'île en île, il fallait trouver comment restituer ce suspens. Et ce sont des gens qui sont totalement fascinés et angoissés par les planètes qui risquent de s'éteindre ou de se fracasser les unes contre les autres. Donc ils sont sans cesse dans l'observation du ciel. Et donc on a imaginé cette constellation, au fond, qui nous redonne une impression d'espace, d'être dans l'espace, le noir avec cette lumière très, très dessinée. Comme ça.
Madeleine Loire, j'aimerais que l'on revienne quand même un tout petit peu sur cette troupe Catalyse, parce que je ne sais pas si c'est un voyage, mais en tout cas, c'est une sacrée aventure. Elle existe depuis 35 ans. Depuis un an et demi, deux ans, je crois, c'est devenu le Centre national pour la création adaptée. Donc, c'est une institution. Oui. À partir de quoi avez-vous... De quel sentiment, de quelle nécessité avez-vous eu envie de créer ce lieu, cette institution, et de travailler avec des personnes en fragilité et en déficience ?
En fait, ça vient de loin, hein, puisque l'idée que des hommes et des femmes qui ont une faiblesse ou une fragilité particulière, qui est visible surtout, produisent sur ce médium qu'est le théâtre, c'est-à-dire quelque chose qui convoque l'instant présent et qui demande la rencontre, ils ont des corps, des façons d'être qui sont particulièrement spectaculaires. Et le théâtre a toujours travaillé sur la crise, un petit peu, sur quelque chose qui, de l'être, de l'homme sur la planète, sur notre Terre, et comment il résout ou il est en face de problèmes et de questions difficiles à résoudre. Et eux le portent profondément. Et du coup, cette question-là, elle a rarement été... Enfin, disons, pendant des années, des lustres, ils ont été relégués à des endroits de non-visibilité. Et je pense que la société est en train de changer. Et on s'aperçoit que ce qui est vulnérable, et surtout après, toujours en ces périodes de Covid, est aussi structurant de notre façon de percevoir le monde.
Mais ce qui est très beau dans votre spectacle, Madeleine Loire, c'est... l'évidence de voir ces comédiens que l'on pourrait dire différents sur scène. Moi, il m'a fallu, je ne sais pas, 15-20 minutes avant de réaliser qu'ils étaient autres, parce qu'il n'y a aucune exhibition, il y a juste de l'attention, et ils sont tout à fait crédibles dans cette histoire fantastique que vous racontez.
Oui, et d'autant plus qu'ils ont écrit une partie des textes, parce que, justement, on a voulu, particulièrement pour celui-là, qu'il s'implique. Swift n'a pas décrit de personnage particulier. Il y a juste le roi, et encore, il l'a à peine esquissé. Donc, c'était une façon pour nous qu'il se réapproprie des personnages, qu'il puisse les incarner. Donc, ça s'est rapproché d'eux, tout en ayant ce geste de translation par l'écriture et par le déplacement, et du coup, de construction d'un personnage. Et ça redonne cette vitalité et cette façon d'être, je dirais pas authentique, mais quelque chose d'une vérité qui passe, en tout cas.
Alors, je ne sais comment le travail s'organise avec des acteurs qui ont ces difficultés-là. Peut-être y a-t-il des problèmes de mémorisation du texte. En tout cas, dans le spectacle, j'ai adoré que vous mettiez sur scène un souffleur. Ce métier a complètement disparu des plateaux de théâtre. Or, je trouve qu'un trou de mémoire, c'est l'événement théâtral par excellence. Ça renvoie à chacun, parce qu'on a tous des trous dans la vie. On a tous peur du blanc, éventuellement, même derrière un micro. Et là, tout d'un coup, on est dans cet accident de théâtre qui est organisé par vous.
Et j'allais dire, le souffleur n'existe qu'au théâtre. Parce qu'il faut l'instant présent, il faut le moment du public, et c'est par excellence pour moi le signe de la grammaire, enfin de ce qui donne la spécificité du théâtre. Justement, du fait qu'on n'est jamais sûr de rien, et que même si on a répété 100 fois, il peut toujours y avoir un accroc. Et depuis le début, depuis l'origine, on a toujours eu des souffleurs. Donc voilà, alors toutes les façons possibles de faire du soufflage. C'est pour ça que quand Thiago Rodriguez avait monté Sopro, c'était tellement proche de ce qu'on avait traversé nous, et qu'on traverse toujours. Et c'est un délice, le souffleur. Parce que ça dit la répétition, ça dit le travail, et puis ça dit aussi l'instant de l'interprétation, parce qu'on voit l'écart, on voit évidemment la faille, mais on voit aussi, ça dit la répétition en même temps que toutes les voix qui ont déjà dit ce texte-là, quand on joue Hamlet, on a tous les Hamlets qui peuvent revenir. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très beau signe de l'acte théâtral.
Mais sinon, le travail avec ces acteurs est un peu différent de celui avec des acteurs standards ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que avec Jean-François, souvent on dit on n'a pas l'impression de travailler différemment. Mais je pense que si, un petit peu quand même. Parce qu'on doit peut-être être... On va plus profondément dans les détails pour décortiquer chaque chose, pour essayer vraiment que tout ça leur appartienne le plus possible. Et du coup, ça demande un peu plus de temps. Ça demande aussi peut-être de ne pas s'arrêter sur une seule idée. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un obstacle et qu'on n'y arrive pas, souvent, il suffit juste de se déplacer un peu, puis on trouve d'autres façons de faire. Et il y a plein d'idées qu'on a eues, qu'on n'a jamais mis en œuvre, parce que soit on n'a pas su le faire, soit... En fait, ce qui se passe avec ces acteurs, c'est que c'est plus nos propres limites qui sont devant nous que les leurs. C'est notre incapacité à comprendre de quoi on est fait tous et par où ça passe.
Gulliver, un conte fantastique et drôlatique avec des rois d'en haut, des sujets d'en bas, des savants fous, des médecins scatologiques, pièce qui se moque joyeusement de tout, et si j'ai bien compris, aussi de notre actualité la plus proche, et pourquoi pas du macronisme.
Nous allons prendre deux cerveaux de politiciens opposés. Prendre une moitié de chaque cerveau et les mettre ensemble dans un même crâne. Et voilà!
Il est bon, mais moi je veux bien voir comment le mélange de cerveaux fonctionne.
Question! Comment faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sans faire descendre les gens dans la rue? Oui?
Oh! Je propose qu'on taxe les défauts. Et plus on aura de défauts, plus on paiera. Mais pas du tout! Moi, au contraire, je propose qu'on taxe les qualités.
Ouais.
Et ceux qui se vantent, ils paieront encore plus.
Oui.
Oh. Hey! En même temps, on pourrait taxer les deux, les défauts et les qualités.
En même temps, voilà, c'est bien.
Et comment le macronisme s'invite chez Gulliver? On est bien d'accord, Madeleine Noir, la référence politique est transparente.
Oui, oui, oui. Mais les cerveaux et toute cette histoire de mélange de cerveaux, c'est totalement Swift. Ah oui, totalement.
Parce que quelle liberté vous prenez? Vous dites les acteurs ont en partie travaillé sur le texte. Quelle liberté vous faites?
Alors, on a gardé les situations. C'est-à-dire que l'Académie de la Gadeau existe vraiment. Alors, le robot n'existe pas. Hein, mais il y a quand même un début, par exemple, qu'on n'a pas réutilisé, parce qu'il y a tellement d'inventions dedans, d'inventions de l'ordinateur, avec une combinaison de 0-1, 0-1, 0-1, enfin, et un travail sur le langage qui est dingue. Mais on n'a pas pu tout garder, mais il y a beaucoup de choses qui sont réellement la source, et on les a actualisées, en fait. On les a ramenées à notre propre imaginaire. Voilà.
Alors, il y a une citation ou une réplique qui m'a beaucoup fait rire. Le peuple manifeste, il réclame la fin de la tristesse, il réclame de vivre dans des châteaux, etc. Et il réclame plus d'onomatopées.
Oui.
C'est Swift ou c'est...
Ah non, c'est les acteurs de Catalyse, oui. En fait, on a dans le travail d'écriture, mais c'est aussi parce que le langage chez Swift est tellement tordu, c'est d'ailleurs très difficile à dire. Ça. C'est des Anglais, ils ont une façon, enfin, de par exemple, le quatrième voyage, c'est le voyage chez les Wim et les Yao. Wim, ce sont c'est le mm des chevaux, en fait, et Yao, c'est les hommes. Donc, il y a vraiment, il fait un rapport sonore à la langue et avec un cryptage assez incroyable. Il y a des livres entiers sur essayer de comprendre tout ça. Mais c'est pour ça qu'Onomatopée tombait assez bien, parce qu'il y a plein de moments où, au fond, on se parle sans dire de mots, sans disant du son.
Le spectacle est très drôle, on l'a dit, il raconte l'enfance, la capacité à rêver, mais aussi la mort avec cette scène finale chez les immortels et finalement la nécessité de se guérir de la peur de la mort. Et ce sont les derniers mots de la pièce. Est-ce que c'est pour cela aussi que cette pièce, croyez-vous, touche le public ?
Oui, je pense que ça fait l'étalage un peu de nos peurs, tout en pouvant en rire. Donc c'est forcément une tentative de mettre à distance. C'est la meilleure façon peut-être de s'en sortir, si tant est qu'on puisse le faire.
Mais on ne le peut pas.
On ne le peut pas, non. Mais ouais. Mais c'est vrai.
Madeleine Loirne, j'évoquais la diversité présente au Festival d'Avignon, diversité dont vous témoignez, notamment avec vos comédiens, mais il y a aussi la diversité du off, avec ces quelques 1000 pièces, du pire au meilleur. J'en ai vu quelques-unes, mais Alexandra Gégy, beaucoup plus que moi. Bonjour Alexandra.
Bonjour Pascal.
Donc je vous présente Madeleine Loirne, Alexandra Gégy.
Bonjour.
Alexandra est une jeune journaliste, et c'est votre premier festival. Quelles impressions ?
Oui Pascal, alors ce festival, pour moi, c'est d'abord une ville qui se transforme complètement. C'est des affiches partout, sur chaque centimètre carré de mur, plein de couleurs, des cafés, des bars qui se transforment en minuscules théâtres le temps d'un mois, avec des comédiens à chaque coin de rue, tous plus déguisés les uns que les autres. J'ai même vu un acteur en combinaison de sumo rose fluo devant la mairie. Et Avignon, c'est aussi pour moi un grand souvenir, une représentation de Kingdom d'Anne-Cécile van Dalem dans une cour et sous une pluie torrentielle, et ce voisin de droite très sympa qui partage avec moi son imperméable, parce que oui, c'est ça aussi Avignon.
Vous avez gardé son 06 ?
Non, mais c'est peut-être les festivaliers qui en parlent le mieux.
Les gens sont tous en terrasse, il y a une ambiance comme ça où tout le monde communique les uns avec les autres et on a l'impression d'être au bord de la mer alors qu'on est dans les terres.
C'est le phénix, quoi, un petit peu, voilà, avec le spectacle vivant qui renaît après une période de jachère.
La fête. Olivier Pie qui fait du vélo avec une chemise en lin.
Pour nous les Belges, Avignon, c'est le rêve, c'est le sud, c'est le soleil, c'est la chaleur. Avignon, c'est super.
35 degrés à Avignon aujourd'hui, en effet il fait beau et chaud pour cette dernière semaine. Des impressions et des spectacles, Alexandra, vous avez rencontré Pepito Matteo.
Oui, c'est un grand conteur depuis plus d'une trentaine d'années qui donne une leçon de français à Avignon, au théâtre de l'Artéphile. Pendant près d'une heure, Pepito partage avec humour son goût pour la langue française et pour les jeux de mots.
J'ai toujours pensé, si vous voulez, que le langage est une chose importante. Et ce qui est important est essentiel, l'essentiel c'est le principal. Et moi, le principal m'avait viré en cinquième à cause d'un manque de concentration.
Le spectacle, la leçon de français, n'est pas une vraie leçon, mais plutôt une sorte de témoignage un peu loufoque d'une aventure qui me serait arrivée, mais qui en fait est plutôt un prétexte à raconter tous les malentendus de la langue, les difficultés qu'on peut avoir depuis l'enfance ou dans les familles. Mon père était espagnol, donc ça me permet pas mal de jouer avec les loufoqueries des traductions. Et puis dans l'anecdote que je raconte, je me retrouve pris, embarqué par malentendu dans un lieu de rétention administrative. Donc je me retrouve là avec des étrangers et ça me permet aussi de voir, de parler de leur situation, de leur trajet, et aussi de parler des questions de la langue, des incompréhensions, donc à soulever pas mal de lièvres. Et voilà, on peut dire que ça, c'est l'enveloppe globale.
Il se remplit la caisse à igname en Nouvelle-Calédonie en mangeant du poulet bicyclette, du poulet élevé en plein air en Côte d'Ivoire, en buvant de l'eau Arsor, de l'eau pétillante au Congo. Il m'a même cadeauté d'une chemise carottée quand on a noélé ensemble aux Antilles. Quelle que soit la longueur du serpent, il a toujours une queue.
J'ai toujours aimé les jeux sur les mots, sur les ambiguïtés de double sens, les expressions étranges. On en a énormément en France. Et quand on voit à l'étranger, il y en a d'autres qui prennent d'autres formes. Alors c'est curieux parce qu'on ne dit pas les mêmes choses d'un pays à l'autre. Et il y a des expressions magnifiques. Par exemple, au Cameroun, on va dire « sucrer l'oreille ». Ça veut dire « dire un secret à quelqu'un ». Alors qu'en Belgique, on va dire « avoir un bœuf sur la langue ». C'est quand on nous a donné un secret et qu'on ne doit pas le dire. Ça pèse lourd.
Je finis par comprendre qu'il veut envoyer un texto à une copine française. Et comme on lui a confisqué son téléphone, je lui dis « je peux peut-être te rendre service ». Et là, il ne comprend pas pourquoi je lui rends quelque chose alors qu'il m'a rien donné. Je lui dis « non, je peux t'aider ». Et il me dit « merci », je lui dis « je t'en prie ». Et là, il me demande quelle est ma religion. Il pense que je vais prier.
Je crois que le langage, c'est le plus beau cadeau que l'humain ait pu se faire à lui-même, parce que ça n'est pas comme le numérique, c'est oui ou c'est non. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus intéressant et multiple, parce qu'on est tous différents les uns des autres, et notre identité n'est pas seulement on appartient à tel pays, mais je veux dire, tout s'exprime à travers la parole, et c'est ça qui est, me semble-t-il, un matériau très important pour parler du monde d'aujourd'hui. Et je m'aperçois que le langage est un véritable enjeu de société.
Vous savez, au XVIIe siècle, on a nettoyé la langue française au Karcher pour lui enlever ses patois, ses vulgarités, pour la masculiniser sous l'impulsion de Richelieu qui voulut une langue académique et la confisquer au peuple et aux femmes. Et bien ces mots-là, ils sont partis. Ils ont vécu leur vie, il y en a qui se sont perdus. Et aujourd'hui, avec tous les échanges, ils reviennent jusque dans nos bras, officiellement squatter nos dictionnaires.
M'est venue une réflexion hier soir en m'endormant qui était que les mots étaient comme de la lumière. Et je pense que allumer les mots, ça serait ça que j'essaierais de faire. Essayer, non pas d'avoir des réponses toutes faites, mais d'allumer les mots pour que les gens se disent « Ah ouais, bah moi aussi j'ai plein de choses dans ma façon de parler, de penser. »
Si on s'y met à tous, on va pouvoir enrichir le langage en additionnant nos différences pour donner des ailes aux mots afin de faire décoller nos pensées vers des idéales. Des idées hautes, des idées hautes, des idées lui. Enfin, vous m'avez compris.
Leçon de français de Pépito Matteo, c'est au Théâtre de l'Artéfil à Avignon jusqu'au 28 juillet.
Merci Alexandra. Madeleine Loire, donner des ailes aux mots, c'est une jolie formule. Est-ce que vous ne faites pas un peu ça aussi?
Peut-être. En tout cas, c'est vrai que notre support, c'est le langage, mais c'est un langage incarné. Donc, il peut se permettre d'être parfois incompréhensible parce que le corps peut parler aussi à sa place. Donc c'est voilà, on a plein de, j'allais dire, de manières de le jouer en fait.
Pourquoi le théâtre dans votre vie? C'est justement pour donner des ailes aux mots, pour les mots ou pour les êtres ou pour les corps?
Je dirais plutôt que ça m'est tombé dessus. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça puisque je m'étais engagée dans le métier d'éducatrice. Et puis par hasard, dans une époque où la psychothérapie institutionnelle existait, on a proposé de faire un club théâtre. Et je me suis dit, je veux bien essayer. Et je me suis aperçue, et c'est une expérience que j'ai déjà retrouvée, c'est que je comprenais le langage du théâtre. Je comprenais l'espace, je comprenais la lumière, je comprenais le temps, je comprenais les corps. Et ça m'a parlé tout de suite. Et c'est comme si je savais le faire. Et j'ai déjà retrouvé, chez des enfants de primaire, par exemple, qui faisaient des interprétations, la première fois qu'ils voyaient un théâtre, par exemple d'Alice ou le Monde des Merveilles qu'on avait monté, ils avaient tout compris. Et je me dis, je devais être comme eux à cet âge-là, c'est-à-dire préparé à comprendre ce langage. Et voilà, ça m'est tombé dessus et je suis restée tout le temps après.
Et c'est votre vie aujourd'hui. Merci beaucoup Madeleine Loire. Gulliver, le dernier voyage, spectacle que vous signez avec Jean-François Auguste, est à voir au Festival d'Avignon jusqu'au 24 juillet au Théâtre Benoît XII, puis en tournée, et notamment à la MC 93. Mais pour ça, il faudra attendre le mois de février prochain. De vive voix en direct de l'Hôtel d'Europe à Avignon, Pascal Paradou, programmation et réseaux sociaux, Cécile Lavolo, reportage Alexandra Gégy, à la technique Philippe Nadel, réalisation Guillaume Ploquin. À demain.